Stéphane Dagusa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le PDG de Predilife, vous êtes au Small Cap Event, vous rencontrez des investisseurs, alors avec une introduction en bourse toute récente vous concernant, qui a été couronnée de succès. Qu'est-ce que ça vous a apporté déjà immédiatement ?
Ça nous a apporté une certaine visibilité, l'occasion de rencontrer des investisseurs. Tant qu'on n'est pas coté, on est parmi la myriade de sociétés petites dont on ne sait pas trop ce qu'elles valent. Là, le fait d'être coté, même si c'est tout récent, ça indique qu'on a passé un certain nombre d'étapes, qu'on est un minimum crédible et ça nous permet de nous ouvrir à la place.
Alors, on a besoin de qualifier un petit peu les sociétés. On parle des biotech, des medtech. Vous vous situez où, vous ?
Alors, on n'est surtout pas une biotech parce qu'il y a beaucoup de risques dans les biotech. Il y a eu beaucoup d'échecs. Je crois pas qu'on soit dans la medtech non plus. Nous, on est de la santé grand public. On fait des tests prédictifs de risque. Alors, c'est une catégorie qui n'est pas de la biotech, qui n'est pas de la medtech, qui est de la santé grand public. On a du mal à nous positionner. C'est assez nouveau. Je crois qu'on est les seuls en Europe à faire ça. C'est l'avenir. Et voilà, donc au début, on n'a pas de catégorie tout à fait adaptée.
Justement, le cœur de métier, c'est sur effectivement la médecine personnalisée. Qu'est-ce que vous avez apporté sur ce marché-là ?
Alors, sur ce marché aujourd'hui de la médecine prédictive, il existe des choses pour les populations à très haut risque familial, mais pour la population dite générale, vous et moi et la plupart des gens, 99% des gens, il n'y a pratiquement rien en prédiction aujourd'hui en cancérologie. On prédit le risque d'infarctus avec le cholestérol, la tension, choses comme ça. Mais pour le cancer, on ne prédit rien. Et les gens, un jour, ont mal, développent une tumeur. C'est souvent trop tard. Et donc, on est à l'origine, au début, de la médecine prédictive en cancérologie.
Quels sont les outils donc, que vous avez amenés ? On va parler après peut-être des produits hein, que vous avez déjà mis en place. Mais quels outils ? C'est de l'intelligence artificielle ? C'est de la data ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ?
Voilà, il y a de l'intelligence artificielle, bien sûr, appliquée à des bases de données gigantesques qui existent depuis des années. La nouveauté dans le paysage, c'est que les tests génétiques en population générale arrivent. Donc, à partir d'un échantillon de salive, on peut analyser plusieurs centaines de gènes et avec des méthodes statistiques, prédire des risques. Voilà, la nouveauté, elle est là. C'est le fruit du séquençage du génome humain qui est intervenu il y a près d'une vingtaine d'années. Et qui arrive enfin auprès du grand public.
Quels sont les donc vous parliez du cancer, quels sont les secteurs que vous avez choisis, vous, pour commencer en tout cas cette aventure-là ?
Alors nous, on a commencé par le cancer du sein, que c'est un des cancers les plus importants en termes de maladies et de nombre de morts. Et c'est un cancer qui touche beaucoup de gens jeunes, ce qui n'est pas le cas des cancers de la prostate, du poumon ou du côlon, qui touchent aussi beaucoup de monde, les chiffres sont à peu près comparables, mais pour des personnes beaucoup plus âgées. Donc en fait, la marge de manœuvre la plus importante en cancérologie aujourd'hui, elle est dans le cancer du sein. Donc on a commencé par le cancer du sein, parce qu'on a eu accès à des bases de données académiques aussi, voilà.
Quel est votre chantier principal justement, puisqu'on parle de nouveautés, de nouvelles approches aussi. Il faut vous faire admettre par les administrations, par un écosystème. Quelles sont vos priorités là-dessus ?
En effet, il faut se faire admettre par l'écosystème. Alors, on est très bien introduit auprès des leaders d'opinion français. On est soutenu par le milieu de la cancérologie, les gens de Gustave Roussy, de Curie. Donc, on est soutenu par le milieu là. Mais entre ce soutien académique, la pointe des leaders d'opinion et le vaste paysage, il y a encore beaucoup de communication à faire. Donc vous avez du mal à nous positionner en termes de société par rapport aux autres. C'est aussi une difficulté dans le paysage réel. C'est nouveau, c'est l'avenir, certes, mais aujourd'hui, tout reste à faire.
De quelle manière vous envisagez en fait l'utilisation de ce type de diagnostic ou de prévisibilité justement ? Est-ce que ça va être le médecin ? Est-ce que ça va être comment ça va se passer ?
Le médecin propose déjà. On est en lancement commercial, hein, donc c'est pas des constructions intellectuelles. Les tests sont vendus aujourd'hui, par exemple en France à l'hôpital américain de nuit. Donc une femme qui vient faire un check-up santé peut se voir proposer un test prédictif de cancer du sein. Donc le médecin propose à la patiente, éventuellement l'accepte. Elle fait un petit prélèvement de salive avec une sorte de coton-tige. Un mois plus tard, les résultats sont communiqués. On rajoute aussi d'autres data et le médecin donne le résultat à la patiente. Une probabilité de risque, c'est 5%, avec un protocole personnalisé de prévention.
On parlait de cette introduction en bourse de la jeunesse de la société. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore en phase d'investissement, justement, pour tous ces outils-là ?
On est en phase d'investissement commercial aujourd'hui. On n'est plus en phase d'investissement technique sur le cancer du sein. On a les agréments en Europe, aux États-Unis, on a le marquage FDA, voilà. On a tous les agréments. On est en phase de lancement commercial. Donc, c'est aussi de l'investissement, parce que les commerciaux commencent par coûter avant de rapporter. Voilà, donc on n'est plus tellement en phase d'investissement technique, mais commercial.
Il y a des priorités où, je dirais, vous pouvez adresser aussi bien l'Europe, les États-Unis. Comment ça se passe ?
Alors, on peut adresser les deux, en effet, mais les États-Unis, c'est très cher. Donc, on adresse d'abord l'Europe, France, Belgique, Italie. Voilà, ce sont nos principaux pays pour le début. Et on va adresser les États-Unis, où on a déjà une petite équipe là-bas, hein, mais qui fait de la veille, qui lance les choses. Et dès que ça a marché en Europe, dès que ça aura marché, donc c'est dans quelques mois, on augmentera les moyens aux États-Unis pour lancer aussi là-bas.
On parlait de cette levée de fonds. Principalement, peut-être le mot de la fin, elle va servir à quoi en 2019 ?
Alors, elle sert au lancement commercial. Voilà, lancement commercial en Europe en 2019. Et on espère qu'en 2020, ça sera le lancement commercial aux États-Unis.
Merci beaucoup, Stéphane Daguzat, d'avoir fait le point avec nous.
Merci.